Faut-il autoriser l'observation secrète des assurés au bénéfice de prestations sociales pour prévenir les abus? Les citoyens suisses voteront dans 10 jours sur cette question. Pour les défenseurs de cette mesure, à commencer par le Conseil fédéral, il s'agit d'autoriser une surveillance strictement cadrée, de quoi prévenir les abus et maintenir la confiance envers un système important pour notre société. Du côté des opposants, on dénonce des méthodes de surveillance arbitraires qui violent massivement la vie privée de tout un chacun, sans contrôle digne de ce nom. Les détectives des assurances auraient même plus de droits que la police et le service de renseignement. Alors on débat de la surveillance des assurés avec nos deux invités, à commencer par vous, Valérie Bourdin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de l'Association Suisse des Assurances pour la Suisse romande. Bienvenue. Et avec vous également, Florence Natter, directrice de la coordination romande des associations d'action pour la santé psychique. Florence Natter, qui est aussi députée et présidente du Parti socialiste neuchâtelois. Bonsoir.
Bonsoir.
Valérie Bourdin, on commence avec vous. Qu'on comprenne bien qui est concerné par ces éventuelles observations secrètes, par cette surveillance. Est-ce que ce sont à peu près tout un chacun, tous les assurés?
Non, absolument pas. Avec cette loi, il s'agit simplement de pouvoir mettre le droit sur des personnes qui touchent de manière indue des rentes sur plusieurs années, et ceci au détriment de vous et moi, c'est-à-dire les assurés. Sont concernés moins de 1% des assurés.
Florence Natter, pour ce pourcentage très réduit des assurés, est-ce qu'il y a lieu de s'opposer face à des mesures qui peuvent être légitimes? On va le voir tout à l'heure.
Justement, je pense qu'on pourrait prendre l'objet dans son sens contraire, parce que dans le fond, s'il y a si peu de personnes qui sont concernées, pourquoi mettre en place une telle disposition dans la loi? Mais au-delà de ça, je pense que c'est important de rappeler aux auditeurs le périmètre vraiment de cette loi. Il s'agit d'une modification de la loi sur la partie générale des assurances sociales. Alors évidemment, quand on parle d'assurance sociale, on pense souvent à l'AI, par exemple. C'est souvent d'ailleurs celle qui est montrée du doigt. Mais toutes les assurances privées qui pratiquent l'assurance sociale, comme par exemple les caisses maladie qui pratiquent l'assurance maladie ou les assurances privées qui pratiquent l'assurance accident, sont aussi évidemment concernées. L'assurance maladie et l'assurance accident, on est tous concernés. Donc cette loi, elle concerne tout le monde. Et je pense que la présence de Madame Bourdin ce soir dans ce débat l'illustre bien, puisque vous êtes porte-parole d'une association des assurances privées. Donc potentiellement, oui, on est tous concernés.
Valérie Bourdin, potentiellement, tout le monde est concerné?
Alors, tout le monde est concerné, bien sûr, en tant qu'assuré qui n'a pas envie de payer pour les autres et de se faire accuser de fraudeur pour un tout petit pourcentage. Maintenant, pour revenir sur les propos de Madame, oui, il y a très peu de cas, mais ce sont des cas qui coûtent extrêmement cher. Et encore une fois, au détriment de tous les autres assurés. On parle de rentes annuelles qui, sur des années, peuvent se monter en millions.
Florence Natter, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une surveillance. Il en va de la confiance qu'on a envers le système. Un système qui est aussi assez souvent, il faut le dire, attaqué par une certaine frange de la politique, des élus, notamment à droite. Est-ce que c'est pas de bonne guerre de permettre aussi des moyens de surveillance qui fonctionnent? On n'a rien sans rien.
Mais je crois que pour nous, c'est clair qu'on ne conteste pas le principe même de lutter contre la fraude, et effectivement, de débusquer les personnes qui abuseraient du système et des assurances. Maintenant, la fin ne justifie pas tous les moyens.
Vous dites débusquer quand même, ce mot est fort. Débusquer, ça veut dire quand même prendre en flagrant délit et utiliser des moyens qui sont efficaces.
Voilà, moi je crois que ce qu'on doit mettre vraiment en lumière aujourd'hui dans ce débat, c'est qu'avec cette modification de la loi, dans le fond, on confierait aux assurances, donc aux responsables des assurances, qui par ailleurs ont quand même aussi des intérêts économiques dans l'affaire, on leur confierait des compétences que même la police n'a pas droit de la même façon. Aujourd'hui, la police qui veut surveiller quelqu'un au-delà de 30 jours doit avoir une autorisation du ministère public, dans une instance de la justice, quelqu'un d'extérieur, alors que dans le fond, avec cette modification de loi, les assurances pourraient le faire potentiellement jusqu'à même une année. Donc il y a vraiment une disproportion des moyens qui sont envisagés. Je crois qu'il aurait suffi que le Parlement fasse un tout petit bout, l'examen un peu plus précis de cette proposition, et je pense que le débat d'aujourd'hui n'aurait même pas lieu.
Valérie Bourdin, on le voit, il y a une nuance de taille, c'est l'accord ou non d'un juge pour engager des observations secrètes. Qu'est-ce que vous répondez à Florence Natter qui dit que c'est disproportionné de confier aux assureurs des pouvoirs que même la police ou le service de renseignement n'ont pas?
Alors, c'est très intéressant et ça me permet de mettre en lumière un aspect très intéressant. On mélange deux choses. Nous, on se retrouve actuellement dans le cadre du droit administratif et non pas du droit pénal. Dans le cadre du droit administratif, l'assurance a pour mission de clarifier le droit aux prestations. Et dans ce cadre-là, elle est amenée à faire des surveillances, mais à vérifier certains documents quand il y a un doute. Et parfois, quand il y a vraiment des doutes qui persistent et des indices très concrets, et que toutes les autres mesures ont été utilisées, l'assurance n'a pas d'autre moyen que l'observation pour pouvoir faire la preuve d'un abus, d'une fraude. Et c'est dans un deuxième temps, effectivement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de mesures, on les abordera peut-être tout à l'heure, pour assurer la sécurité, la protection des assurés, l'assuré va être informé de cet état de fait, de cette observation qui aura eu lieu, et libre à l'assuré de porter plainte. Et ensuite, on arrive devant un juge qui va prendre position. Mais dans le cadre d'un droit administratif, on ne part justement pas du principe que les assurés sont des fraudeurs. L'idée, c'est de justement déterminer si une personne a droit à une prestation ou pas.
Est-ce que vous n'agitez pas les peurs, Florence Natter, en disant que ça concerne tout le monde? Or là, on voit que c'est plutôt une mesure de dernier recours, une fois que tous les autres moyens de vérification ont été épuisés.
Oui, c'est une mesure de dernier recours, mais qui est laissée en main de l'assurance elle-même. De l'assurance qui, potentiellement, justement, quand elle pratique, enfin, qu'elle pratique à la charge de l'assurance sociale ou privée par ailleurs, son objectif, c'est aussi plutôt de faire des mesures d'économie, d'éviter effectivement des prestations qui seraient versées à tort. Donc, comment cette assurance va pouvoir définir qu'est-ce que sont des indices concrets? Je crois qu'il y a un pouvoir trop important qui est donné aux assurances, qui sont par ailleurs, de leur côté, elles non plus, pas toujours exemplaires dans leur façon de pratiquer leur mission. Donc, ce qu'on demande juste, c'est de recourir au service du juge, qui a une appréciation objective, extérieure et neutre, et qui peut ordonner cette surveillance. Le juge le fait pour les moyens de géolocalisation. Potentiellement, la décision peut être rendue dans un délai de 5 jours. Donc c'est tout à fait acceptable pour des mesures de ce type-là, mais on ne peut pas laisser cette appréciation et ce pouvoir aux assurances.
Valérie Bourdin, on va détailler dans un instant ce que dit la loi et ce qu'elle ne dit pas en termes de mesures et de garde-fous. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que pour vous, les précautions sont suffisantes pour qu'on fasse confiance aux assureurs, pour qu'ils ne visent pas seulement leur propre intérêt, mais visent vraiment une telle enquête, de telles observations en dernier, ultime recours?
Absolument. Faire appel directement à un juge, c'est partir du principe de la criminalité qu'un assuré est automatiquement dans une situation de fraude à l'assurance. Le rôle de l'assurance, c'est de démontrer si oui ou non c'est le cas. Et ça part déjà dans une idée dans une bonne volonté d'assurer justement, si je peux dire, la sécurité des assurés. Si on en revient, madame, comme l'a dit madame, je représente les assureurs privés. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que non seulement on parle de très peu de cas d'observation, mais que dans plus du 2/3 des cas, on nous donne raison. Donc ça, c'est le meilleur argument, j'ai envie de vous dire. Et pour rester dans les assurances privées, parce que j'en suis la représentante, nous parlons de 100 cas par année et nous avons quasiment du 90% de taux de réussite. Donc ça montre quand même que ce n'est pas l'idée de pointer du doigt tout le monde. Et si on le fait, c'est qu'on a des raisons plus que fondées de le faire.
On va maintenant s'attarder un tout petit peu plus en détail sur ce que prévoit cette loi en termes de garde-fous. Florence Natter, est-ce que vous craignez que finalement cette surveillance puisse avoir lieu dans un lieu privé? Il est question des salons, des salles de bain. Est-ce que pour vous, les garanties sont de loin pas suffisantes?
Alors, je crois que les garanties sont de loin pas suffisantes, mais j'aimerais juste rebondir sur les propos de tout à l'heure de Madame Bourdin. Le recours à l'autorisation du juge, elle l'explicite comme quelque chose qui pourrait signifier criminaliser. Au contraire, je pense que c'est plutôt justement garantir l'état de droit quand il s'agit d'engager des mesures qui portent à atteinte à la sphère privée de tout un chacun. La surveillance, elle peut être organisée depuis un lieu qui est accessible, depuis un lieu accessible et visible, depuis un lieu public. Donc potentiellement, quelqu'un qui a son salon, qui a pignon sur rue, pourrait être surveillé. Et c'est quand même une atteinte lourde à la sphère privée. Donc je pense que le recours au juge, au contraire, c'est garantir l'état de droit. Et puis Madame Bourdin disait, dans le fond, la loi prévoit que les personnes seront informées après. Donc si la surveillance est injustifiée, elles pourront porter plainte. Mais Madame, pensez-vous que les assurés, pour la plupart étant dans des situations modestes, auront les mêmes moyens que vous, les assurances, avaient pour recourir à des avocats pour défendre leurs droits? Non, sincèrement, non.
Valérie Bourdin, plusieurs questions qui vous concernent. On commence par celle qui veut que même le Conseil fédéral concède qu'il s'agit d'une atteinte grave à la vie privée et qu'il faut des garde-fous. Est-ce que selon vous, la loi est suffisamment explicite en matière de garde-fous par rapport au fait qu'un détective puisse par exemple observer quelqu'un dans son salon ou dans sa salle de bain depuis la rue?
Absolument. La loi assure les garde-fous suffisants. De quoi est-ce qu'on parle? On parle d'enregistrement visuel ou sonore, uniquement si la personne observée se trouve dans un lieu accessible au public, j'entends la rue, un magasin X ou Y, ou dans un lieu visible depuis un lieu accessible au public.
Donc balcon, depuis la rue dans son
oui.
salon.
Voilà, balcon, oui, jardin, oui. Je ne dis pas qu'une personne ne sera pas vue depuis la rue, dans son salon, si elle se tient à sa fenêtre. Ce ne sera simplement des données qui ne seront pas utilisables. Le Conseil fédéral a été clair, le Parlement a été clair, il y a des arrêtés, un arrêté fédéral qui a été publié. Cette information ne sera simplement pas recevable. Est-ce qu'un assureur veut perdre du temps à récolter des informations qui ne seront pas recevables pour un juge ?
Valérie Bourdin, dernière question à vous. Oui. Qu'en est-il du contrôle des contrôles? Qui va s'assurer que ces contrôles sont réalisés dans les règles de l'art?
Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Hein. Premièrement, il faut qu'il y ait, comme on l'a dit, il faut qu'il y ait un doute absolument fondé. Il faut que toutes les autres mesures aient été utilisées. Et c'est uniquement là qu'on va pouvoir lancer une procédure d'observation, cette mesure de l'observation, et c'est uniquement la direction d'une assurance qui pourra prendre cette décision. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? L'observation pourra avoir lieu pendant 30 jours, sur un délai de 6 mois, éventuellement, encore il faudra le justifier, prolongation sur une année. Et suite à cela, l'assureur est tenu d'informer l'assuré qu'il a été observé, de lui fournir tout le matériel et de détruire ce matériel, sauf si l'assuré désire ce matériel pour éventuellement réagir à cela.
Donc des règles très précises, Florence Natter.
Des règles très précises. Et encore une fois, juste pour préciser, il y a une ordonnance qui est sortie aussi qui définit exactement les compétences des détectives et aussi pour assurer la qualité des détectives.
Florence Natter, on termine avec vous.
Ce que le Conseil fédéral a mis dans une ordonnance, dans le fond, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas mis dans la loi? Ça, c'est la première chose. Et puis, les règles très précises. Oui, madame, des règles très précises qui seront, dans le fond, évaluées et mises en œuvre par des hommes et des femmes qui sont à la tête d'assurances, des assurances qui ont aussi, effectivement, je le rappelle, leurs intérêts dans l'affaire. Donc, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'aujourd'hui, on veut donner pour quelques cas qu'on doit effectivement combattre des pouvoirs supérieurs à ce que la police dispose? Encore une fois, je pense que c'est important de le rappeler pour quelques cas.
Ce ne sont pas des pouvoirs supérieurs à la police.
Oui, madame, parce que la police, à partir de 30 jours, doit avoir une autorisation du juge pour poursuivre une surveillance.
Merci à toutes les deux d'être venues défendre votre point de vue en lien avec cette votation qui se tient donc le 25 novembre sur la surveillance des assurés. Il y avait vous, Florence Natter, directrice de la coordination romande des associations d'action pour la santé psychique, et vous, Valérie Bourdin, porte-parole de l'association suisse d'assurance pour la Suisse romande. Merci à toutes les deux, bonne soirée.
Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée.